savoir, Louise Touret.
Bien sûr, il faut limiter le temps passé devant les écrans, temps passé par les enfants et les adolescents, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas se pencher sur ce que regardent les jeunes sur ces mêmes écrans. En l'occurrence, YouTube, qui, devant d'autres plateformes vidéo comme Dailymotion, est devenu un média dominant et a largement remplacé la télévision auprès du jeune public. Ainsi, les vidéos sont accessibles sur les écrans de télé, les téléphones et autres consoles de jeux. Et aujourd'hui, YouTubeur est une profession qui fait rêver les enfants. Pour les petits Américains, par exemple, selon un sondage largement relayé par les médias français cet été, c'est le métier le plus désirable devant enseignants et athlètes. Alors nous reviendrons dans cette émission sur les dénonciations et les inquiétudes concernant les contenus les plus commerciaux, particulièrement ceux qui mettent en scène des enfants, mais on notera aussi que l'art, en particulier la littérature, avec les booktubeurs et les savoirs, circulent aussi sur YouTube. Et donc dans cette émission, c'est bien l'émergence d'un média et d'un phénomène culturel générationnel qui nous intéressera. Peut-on le caractériser? Peut-on parler de création visuelle? Sur leur chaîne, les auteurs, adultes, adolescents et même enfants misent sur l'identification du public en se mettant en scène et en s'exprimant souvent face à la caméra. Ils ont dynamité les codes visuels préexistants en privilégiant une forme de métalangage. Tout serait censé se voir sur YouTube, les coupes, les trucages. C'est un spectacle très moderne qui montre certaines de ses ficelles, mais dans quel but? Et que peut-on dire sur une plateforme qui semble gouvernée par des algorithmes qui nous disent, eux, quoi regarder? Et une plateforme qui semble aussi censurée par ses annonceurs. Quand le cinéma et la télévision ont façonné les imaginaires du XXe siècle, que produiront ces vidéos, leur grammaire visuelle et les idées qu'elles véhiculent sur la génération Z, les enfants nés après 2000, ça c'est ça la génération Z. Aujourd'hui, les vidéos en ligne ont fini par intéresser ceux qui étudient la création des images, comme Michael Zwertinski ou de rares journalistes comme Vincent Manilev. Ils sont nos invités et puisqu'on parle d'auteur et de réalisation, vous entendrez aussi le youtubeur Kevin Tran. Mon père, il ne savait pas que je chantais. Niska, étoile du rap français, sera l'invité de notre leçon de choses. Devenir rappeur, est-ce facile à imposer à ses parents? Éléments de réponse et souvenirs d'adolescence de Niska au micro de Sophie Bobert vers 17h50. On remercie Jean-Guy Limège à la prise de son aujourd'hui, Avril Ventura et notre réalisateur Philippe Baudouin qui fabrique cette émission avec moi. C'est 1 milliard d'utilisateurs mensuels. C'est probablement la plus universelle des plateformes sociales. Elle a été rachetée en 2006 par Google et c'est de facto le deuxième moteur de recherche du monde. 81% des internautes utilisent YouTube. 80% des 16-24 ans l'utilisent au moins une fois par jour. Source ministère de la Culture. Bonjour, Michael Zwertinski.
Bonjour.
Vous êtes directeur du développement numérique au Forum des Images, qui vient d'organiser la première édition des Stream Days, qui s'intéresse donc à YouTube.
Oui, on vient de lancer, il y a juste quelques semaines, la première édition de ce festival. L'idée était claire, c'était à la fois d'organiser un lieu de rencontre pour les YouTubeurs, de projeter sur grand écran leur diffusion, leur web-série, leurs œuvres. Mais surtout, avec notre spécificité, c'était de décrypter le contenu, d'avoir l'envers du décor, à la fois de la grammaire et à la fois du scénario. Donc, pour qu'il y ait une rencontre entre les spectateurs et la scène, et pour qu'on connaisse un peu tous leurs petits secrets de fabrication.
On peut faire des comparaisons avec le cinéma, la création vidéo, quel domaine de la création vidéo?
Alors c'est une forme de création vidéo, puisqu'on a invité, nous, principalement, les gens qui faisaient à la fois ou de la fiction ou de la vulgarisation scientifique. On n'a pas invité tous les youtubeurs. Donc disons que c'est un code qui est vraiment nouveau, puisque comme vous le répétiez, 2004, lancement de la plateforme, 2006, premier épisode, en fait première création, premier dépôt de film. Mais il n'y a pas encore d'organisation, il n'y a pas encore vraiment de code. Il y a quelques analyses comme certains livres qui circulent, mais on n'a pas ce retour critique. C'est des gens qui ont appris en faisant. et qui sont parfois issus de cultures, bah, de la pop culture, qui pouvaient être comédiens, qui pouvaient avoir juste envie de créer ou qui étaient gamers. Donc déjà, on a une diversité de personnes qui sont venues nous rencontrer et raconter leur histoire. Donc cette ouverture s'est faite pour tous et par tous, puisqu'il suffisait d'uploader quelque part un fichier vidéo sur une plateforme. Donc les codes se sont faits en avançant. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti lors de ces rencontres.
Gamers, ce sont des joueurs de jeux vidéo. D'ailleurs, c'est la Paris Games Week en ce moment, jusqu'à demain soir, je crois. Et le gaming, puisque c'est comme ça qu'on dit, représente une large part des vidéos produites sur YouTube. Mais il y a beaucoup, beaucoup de secteurs, n'est-ce pas, Vincent Manilève?
Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est... moi, j'aime bien dire que essayer de comprendre tout ce qui se passe sur YouTube, c'est essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la société, en fait, et essayer de dire que bah il y a autant de profils de YouTubeurs que de profils de gens dans la société, c'est-à-dire qu'il y en a qui font des vidéos pour vous expliquer comment réparer des machines à laver, d'autres qui vous apprennent à utiliser un pot à canard, comme il y a des gens qui vous apprennent à mieux jouer à Fortnite par exemple. C'est vraiment très très varié.
Je suis plutôt cliente de la réparation de machines à laver, mais concernant le public jeune qui fréquente massivement la plateforme, est-ce qu'on peut dire que YouTube est un média dominant aujourd'hui ?
Oui, complètement. Il suffit de voir des fois certains enfants face à un iPad, face à un ordinateur, quand on leur demande d'aller chercher une information sur Internet, ils ont peut-être moins tendance à aller sur le moteur de recherche de Google et plutôt directement sur YouTube. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vraiment un moteur de recherche très important à part entière et pour eux, ça devient la nouvelle télévision, le nouvel écran de référence, la nouvelle façon de se divertir au quotidien en rentrant de classe ou même pendant la récré, pendant les cours, des fois si
alors,
on ne sait pas.
On rappelle que le téléphone portable est désormais, voilà, depuis l'année dernière, interdit à l'école et au collège évidemment. Vincent Manilève, on apprend beaucoup de choses en lisant votre ouvrage, YouTube derrière les écrans, ces artistes, ces héros, ces escrocs, j'aime beaucoup ce sous-titre. C'est une enquête. On apprend par exemple que YouTube au départ, c'était pas du tout une plateforme vidéo, c'était un site de rencontre.
Oui, c'est assez marrant parce qu'il y a toujours un peu cette idée avec les grandes entreprises américaines du numérique de se construire un peu une légende, notamment comme Facebook, on le voit, c'était aussi un petit peu, il y a une origin story entre guillemets un peu plus sombre que ce que Mark Zuckerberg essaye de le faire entendre, et notamment récemment. Là, effectivement, c'était un moyen pour leurs créateurs d'essayer de faire rencontrer des gens avec une espèce de CV un peu vidéo en ligne, sauf qu'ils se sont rendus compte assez vite que les gens utilisaient le site pas du tout pour ça, mais pour mettre des fois des vidéos d'avions qui décollaient, de choses complètement du quotidien. Et d'ailleurs, la première vidéo qui a été uploadée, c'était l'un des créateurs qui se filmait au zoo en train de montrer un éléphant, qui est une vidéo assez banale, mais qui aujourd'hui a eu des millions et des millions de vues. Mais c'est vrai que c'est par les utilisateurs que YouTube a défini sa ligne éditoriale, entre guillemets.
On va essayer de savoir ce qu'est cette ligne éditoriale, mais quand est-ce que la création est arrivée sur YouTube? Si on peut parler, si vous êtes d'accord, hein, pour parler de création avec moi.
Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est notamment en France, avant que YouTube ne s'impose, il y avait le fameux site Dailymotion,
qui existe toujours, qui est un site
français, qui aujourd'hui est assez délaissé, voire l'objet de certaines blagues au sein de la communauté de vidéastes. Mais à l'époque, c'était vraiment le premier endroit où les Français publiaient leurs vidéos, leurs petits sketchs. C'était souvent des vidéos humoristiques. Ils se rencontraient entre eux. Ils venaient à Paris, Cyprien montait à Paris pour voir...
Ah, Cyprien, Norman, Squeezie, ce sont...
Le trio de tête, voilà, des youtubeurs français.
Plus connus.
Voilà, et qui sont sur YouTube depuis vraiment une dizaine d'années. Mais ils ont tous commencé sur... Dailymotion. Et Norman le racontait il n'y a pas longtemps, c'est un de ses copains, Mister V, qui est un autre gros youtubeur, qui lui avait dit « Oh mais tu sais, tu devrais aussi publier tes vidéos sur YouTube, c'est américain, mais on sait jamais, etc. » Et au final, c'est en republiant les mêmes vidéos de Dailymotion sur YouTube que Norman a vraiment commencé à exploser. Et donc c'est comme ça que c'est un peu venu et que Dailymotion a perdu en importance.
Alors explose en termes d'audience, mais aussi en termes de revenus. Parce que on peut s'arrêter une seconde sur cet aspect. YouTube permet de monétiser sa création à l'aide de la publicité.
Oui, au départ, un des reproches qui était fait à Dailymotion et de la part des vidéastes, c'était qu'on ne leur proposait pas forcément d'argent. Il y avait un petit peu des promesses, des idées de monétisation, mais c'était très très compliqué. Et YouTube a réussi à les séduire, notamment parce que il leur proposait un revenu, c'est-à-dire tous les 1000 vues. Sur leurs vidéos, on leur promettait environ $1 de recettes. C'est quelque chose qui est très variable et qui aujourd'hui a beaucoup chuté. Mais à l'époque, c'était simplement parce que Google avait vendu des espaces publicitaires sur les vidéos, c'est-à-dire qu'on pouvait placer des publicités devant les vidéos en nouant des contrats avec des marques via Google. Et ça a permis à Google de prendre en importance auprès des créateurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de vidéos, donc on pouvait plus facilement placer les publicités et avoir un meilleur revenu pour chaque 1000 vues. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On peut même dire qu'il reste un peu des miettes à ce gros gâteau.
Voilà, puis en fin d'émission, on reviendra sur la manière dont la publicité influence aussi le contenu même de ce qui est publié sur YouTube. Mais dans la première partie de cette émission, je voulais vous faire écouter un YouTuber. Il va nous expliquer comment il travaille. C'est Kevin Tran. Il réalise des vidéos sur la plateforme depuis 2012 avec son frère Henri. Sa chaîne, dont le nom est Le Rire Jaune, compte 4,9 millions d'abonnés. Ce sont des vidéos d'humour. Et pour l'auteur, c'est un travail de précision.
Pour moi, un sketch, c'est limite un peu comme des maths, quoi. C'est-à-dire que en maths, on veut démontrer quelque chose. Bah, en vidéo, en sketch, on veut arriver à une chute. Et en maths, pour arriver à cette preuve, on va établir toute une démonstration. Et c'est pareil en humour. On va arriver à une chute, on va établir un raisonnement, une série de blagues logiques qui permet d'y arriver. Donc en fait, pour moi, je vois beaucoup de similarités entre les maths et l'écriture de sketch. Rien n'est disséminé au hasard dans un sketch. Chacun de nos mots est pesé, la respiration, la virgule près. Tout est calculé, en fait. On n'essaye vraiment pas de prendre le spectateur pour des imbéciles. On veut leur donner, transmettre cette passion de l'écriture et de la précision. Et c'est ça, Le Rire Jaune. Une vidéo sur YouTube, surtout d'humour, j'aime bien qu'elle soit très dynamique, j'aime bien qu'elle soit imagée. Le fait qu'on mette beaucoup d'images, d'une, ça anime la première lecture, mais ça donne envie de la regarder une deuxième fois. Et lorsqu'on regarde la deuxième fois, c'est là qu'on commence à comprendre toutes les idées sous-jacentes qu'on a placées dans nos vidéos. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et effectivement, on n'aime pas juste faire un sketch dans l'unique but de faire rire, on aime aussi faire réfléchir et que les gens aient appris des choses à la sortie d'un sketch et pas juste on a rigolé.
Mais vous êtes presque auto-formé à plein de métiers de l'audiovisuel.
C'est ça qui est bien avec le métier de youtubeur, c'est que c'est un métier un peu multicasquette, quoi. Ça permet de faire de nombreux métiers. Donc on connaît bien à la fois le montage, on connaît bien le mixage son, on connaît bien comment ça se passe un plateau. On sait un minimum jouer. Bien sûr, c'est pas incroyable, mais on sait un minimum jouer. On sait aussi bien écrire. On est assez complet. Ça, c'est sûr que. Et puis c'est ce que YouTube demande. Si on n'est pas complet, ça se voit tout de suite qu'on a un gros point faible quelque part. Et les abonnés vont pas manquer de nous le faire remarquer.
Tu veux faire quoi à ma place ?
Bah ouais, mais quelle idée de porter des Converse aussi !
Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps.
Tu viendras me voir à la fin du cours !
Les Converse, ça tient pas la cheville !
Le bac, c'est une formalité.
De toute façon, aujourd'hui, tout le monde l'a.
Articule.
Eh, c'est pas en faisant rien que vous allez réussir votre vie, hein !
Arrête de rêvasser.
Y a plein de place au premier rang.
J'en ai marre de faire la police !
Laisse-le par terre, il tombera pas plus bas.
Vous avez un plastique après. Vous pourrez parler autant que vous voudrez.
Respectez ceux qui veulent apprendre.
Ce serait bien que vous soyez tout le temps sage comme ça et pas que le jour du conseil de classe.
Pourquoi tu ris, toi ? Vas-y, raconte, on a tous envie de rire.
Monsieur, c'est l'anniv de Clara aujourd'hui.
Ah bon ? Clara ? Au tableau ?
La fenêtre est plus intéressante que mon cours, on dirait.
Bon, puisque tu veux parler, viens.
Oh non !
Si, si !
Dernier avertissement, après tu sors.
La porte.
Ton carnet ! Et tu reviens samedi !
Si vous avez du mal avec la trigonométrie, je vous conseille Qui est Qui 2 de Kevin Tran.
Pourquoi y a jamais de clé de couleur ?
Ah, ça sent le bouc ici. Ouvrez les fenêtres. Monsieur, vous êtes trompé.
C'était pour voir si vous suiviez.
Ouais, c'est ça.
J'ai rien fait, monsieur.
C'est bien ça, ton problème. Tu fais rien.
Hop, hop, téléphone, confisqué.
Bah dis donc, c'est qui Priscilla ?
Je vois que monsieur a du succès.
Donc on a commencé YouTube avec mon petit frère en 2012. À l'époque, j'avais 21 ans. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans le divertissement en France, en tout cas, il y a très peu de Français d'origine asiatique. On n'est pas assez représentés, je trouvais. Et le peu de personnalités françaises d'origine asiatique dans le divertissement, justement, à l'époque. C'était beaucoup de personnes qui avaient des rôles de composition ou des rôles un peu clichés. Et nous, on voulait pouvoir prouver que, justement, des Français d'origine asiatique pouvaient faire rire sans utiliser l'accent, sans, entre guillemets, rabaisser sa communauté pour faire rire les autres. C'est aussi pour nous un moyen de nous exprimer, de parler de sujets qui touchent beaucoup de personnes, en qui les gens se reconnaissent aussi. C'est une manière pour nous de pousser notre créativité, de travailler notre écriture. On a envie de montrer aux gens qu'on sait bien écrire et puis donner aussi goût aux gens de s'intéresser à l'écriture.
Est-ce que vous travaillez des sujets pour les mettre dans vos vidéos? Est-ce que vous lisez des articles? Enfin, je ne sais pas comment vous travaillez d'ailleurs.
En fait, on ne traite pas d'un sujet si on ne connaît pas. Donc lorsqu'on a choisi un sujet de vidéo, généralement, je commence par regarder tout ce qui a été fait sur ce sujet pour être sûr de ne pas refaire les mêmes blagues. Et puis, une fois qu'on a ça, bah oui, on va commencer à se documenter. Par exemple, j'avais fait un sketch sur l'infidélité et je voulais vraiment comprendre qu'est-ce que c'était, pourquoi il y a des personnes qui sont infidèles. Est-ce que avoir un degré de réflexion plus poussé que juste... ah, c'est pas bien, il a trompé, etc. Et donc, en lisant plein d'articles dessus, on est tombé sur des statistiques, des études scientifiques, etc. Et ça nous permet d'être précis dans nos propos. Donc effectivement, chacune de nos vidéos, parce qu'on a un degré d'exigence très élevé avec mon frère et de précision, on aime faire un gros travail de recherche en amont pour être juste et ne pas dire des banalités qui entre guillemets, abrutissent le public.
En vrai, globalement, ce qu'on t'enseigne en études de commerce, t'as pas besoin de cours pour l'apprendre si t'es un minimum filou dans la vie. Mais si tu payes aussi cher ces écoles, c'est surtout pour les gens que tu vas y rencontrer. Y a des bons intervenants, connaître d'anciens élèves peut te permettre d'obtenir des stages. Parce que bon, faire stage chez Le Rire Jaune avec ce gars en patron, et ça se trouve, ta voisine sera future ministre, qui sait. À la base, j'aime pas tisser des fausses relations comme ça juste par intérêt. Mais vu que tout le monde autour de moi le faisait, je me suis adapté. Ah bah, j'ai joué le jeu, hein. Maintenant, tous les jours, je suis.
Posé avec Jacques dans son château. J'ai repérage contact, j'ferai mon réseau. On a le même polo. Oublie pas de follow, bah quand j't'aurai polo. Mon numéro, LinkedIn et CV gros. J'entends père à la télé, j'ai pas de slash pour cet été.
On est potos ou pas?
YouTube, c'est vraiment un langage spécial. Ça, on l'apprend en regardant d'autres youtubeurs ou on... c'est presque par... on l'apprend pas, c'est comme ça qu'on fait, parce que les autres font comme ça. Comment ça vous est venu? Enfin, comment c'est construit aussi dans votre tête?
Alors, c'est sûr que dans le format que je fais, c'est-à-dire le facecam, oui, il y a beaucoup de nuances de rythme. Donc, c'est des choses que moi, j'ai en regardant beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai apprises. J'ai aussi tourné ça un petit peu à ma sauce. Avec mon frère, on a beaucoup théorisé dessus. On s'est dit, voilà, le facecam, c'est une discipline. Il faut à la fois apprendre de ceux qui sont passés avant nous, il faut aussi innover. En France, par exemple, avec mon frère, c'est tout bête à dire, mais en 2012-2013, on était les premiers à faire des facecam gauche-droite, c'est-à-dire une phrase à gauche, une phrase au centre, une phrase à droite. Et ça, avant, les personnes en France, par exemple, parlaient que en face de la caméra. Et nous, on a commencé à faire gauche-droite-centre, plus des zooms à chacune phrase, avec des images pour illustrer. C'est bête, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais c'est vrai qu'en France, on était les premiers à le faire.
Dans les vidéos, en tout cas, celles qui s'adressent plutôt jeunes, on voit bien qu'il y a des petits trucs de montage. Il n'y a pas d'effets spéciaux, au contraire, c'est des effets normaux, tout est montré.
Alors c'est sûr que ce qui est attachant dans une vidéo sur YouTube, c'est le côté un peu artisanal, savoir que la personne en face n'est pas un professionnel des effets spéciaux et qu'il a fait avec 2-3 bouts de ficelle avec ce qu'il avait. Et ça donne l'impression au spectateur qu'il peut faire la même chose chez lui. Et donc oui, c'est clair que c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, le homemade. C'est quelque chose que nous on continue à faire aujourd'hui. Et on se casse bien la tête des fois pour savoir comment réaliser certaines choses. Ah, le succès, c'est quelque chose qu'il faut aussi relativiser. C'est la conséquence du travail. Pour moi, le succès, c'est aussi lorsque l'opportunité rencontre la préparation. C'est-à-dire que mon frère et moi, on travaille extrêmement dur pour être prêts le jour où certaines possibilités nous sont présentées, justement. Et pour ne pas avoir peur de relever certains défis lorsque ils sont présentés sous nos yeux. Donc oui, il faut relativiser. Pour moi, on travaille dur, on écrit, on s'applique sur chacun de nos sketchs, on les poste sur Internet, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Donc au bout d'un moment, les gens voient. Pour moi, c'est mérité.
Et Kevin Tran remporte également un grand succès avec ses mangas Kiei. Et on doit signaler que le prochain opus, le cinquième volet, signé aussi Fanny Antini, qui est la dessinatrice, et bien ce cinquième volet sort dans un mois début décembre. Je voulais revenir sur ce langage, cette grammaire visuelle propre à YouTube, Michael Sviartynki. Je voulais voir avec vous d'où venaient en fait ces éléments qu'on retrouve un peu dans toutes les vidéos YouTube, en tout cas celles qui s'adressent aux jeunes. C'est très haché, coupé, il y a beaucoup d'incursions d'éléments un peu annexes dans le montage, beaucoup de surprises aussi. Est-ce que ça c'est quelque chose qui s'est créé au fil de l'eau? Est-ce que ça fait partie aussi des passages obligés pour les vidéastes sur YouTube?
Il y a une forme de grammaire, mais comme on le disait tout à l'heure, avec le nombre de chaînes, le nombre d'intervenants, le nombre de vulgarisations et le côté international, il n'y a pas une seule grammaire qu'on pourrait écrire. Après, c'est ce qu'on a plutôt reçu, et les gens qu'on a reçus au forum à travers les différents festivals et masterclass, c'est des gens qui avaient déjà une certaine vision de la création, qui n'avaient pas nécessairement d'équipe, mais qui étaient effectivement face caméra pour la plupart. Mais quand on vulgarise l'histoire, il y avait énormément d'inserts, de montage, il y avait pas d'animation nécessairement, mais on pouvait retrouver des graphismes, on pourrait retrouver aussi des mises en situation. Je pensais à Nota Bene quand il a travaillé sur la découverte de la Grèce à travers.
Donc, Nota Bene, Benjamin Briot.
Benjamin Briot, voilà, par exemple.
Qui a une chaîne d'histoire.
Qui a une chaîne d'histoire, qui n'est pas historien, c'est effectivement.
Oui, j'ai failli le dire, je n'ai pas dit.
La vulgarisation, c'est trop tôt, mais il y a un rythme. Donc effectivement, c'est plus court, mais j'ai envie de dire plus court qu'à la télé ou qu'au cinéma. Mais le rythme, il peut aller parfois, on peut être sur des vidéos de 5-6 minutes jusqu'à des vidéos de 25 minutes. Donc en fait, je pourrais pas dire juste il y a un rythme court comme on peut l'avoir sur d'autres plateformes. Il y a une idée face caméra, mais vers ceux qu'on trouve le plus souvent. Donc on parlait des premiers initiateurs, comme disait Vincent, qui pouvait être Norman, qui pouvait être Cyprien, Squeezie bien plus tard, puisqu'il est effectivement, je crois, une dizaine d'années en moins, ou 7-8 ans en moins. Et du coup, on peut retrouver... au fond, un rythme, une forme de narration, et après, l'idée qu'il y a une improvisation. L'idée qu'il y a une improvisation, même si elle est écrite, ou même si une partie est écrite, ça, c'est les premiers constats qu'on peut faire. Mais dans cette diversité entre la vulgarisation scientifique et les sketchs, entre les dernières chaînes un peu plus organisées autour de web-séries, j'ai pas vu une seule grammaire, pour moi, émerger. J'ai juste vu une différence par rapport à ce qu'on faisait avant, puisque au Forum des Images, on a un lieu de cinéma, de séries, etc. Et on a vu effectivement des formes et des grammaires. Là, ce que j'ai constaté, c'est peut-être lié aussi à la jeunesse du média. C'est aussi peut-être lié au temps, parce qu'on n'a pas d'équipe de production, même si les équipes commencent à venir. Mais regardez, quand vous êtes sur un plateau cinéma ou un plateau télé, vous pouvez voir du réalisateur au scénariste,
au chef-op, etc. C'est ce qu'on entendait avec Kevin Tran, c'est le fait d'apprendre
plein
de métiers. Oui.
Donc j'ai envie de dire qu'il y a l'idée de tout faire. Deux, le rythme de la plateforme qui s'adresse aussi à des plus jeunes. On va pas uploader 3-4 heures de vidéo, on n'est pas dans, on va dire, Bollywood. Donc on aura peut-être des formats plus courts. On a le côté face caméra, on voit beaucoup de gens chez eux ou dans une chambre, mais pas que, parce que ça se professionnalise. Et après, il y a la notion de jeunes qui parlent aux jeunes sans pour autant dire des choses trop simples, mais il y a peut-être un langage ou un argot qu'on pouvait retrouver, ça veut dire la génération qui parle à sa génération.
Vincent Manilev, comment se sont installés ces codes qui peuvent être assez différents, mais par exemple l'idée de parler depuis chez soi, ou ce qui ressemblerait à un chez soi, face à la caméra, même si on peut jouer avec cette image en tutoyant son public?
Oui, mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, il y a vraiment une question de moyens au départ. De se dire, souvent les gens commencent avec une caméra de qualité moyenne, pas terrible. Si vous allez sur Dailymotion voir les premières vidéos de Cyprien, par exemple, il les a laissées. Sa chaîne, c'est Monsieur Dream. On peut voir que la qualité vidéo c'est très pixelisé. C'est parce qu'il y a déjà 10 ans. Effectivement, c'est filmé dans sa chambre parce qu'il a pas de studio à sa disposition. Aujourd'hui, il a reproduit son salon dans un studio, donc on a l'impression qu'on est chez lui, mais non, on est dans un studio. Donc ça, c'est un vrai saut qui a été franchi. Et en fait, typiquement, ce que disait aussi Kevin Tran, le fait de parler d'un côté de la caméra, puis de se répondre en face en étant la même personne, c'est aussi une économie de moyens, parce que souvent on est seul pour faire ces vidéos, donc on se fait ses personnages, on se rajoute un petit chapeau ou des lunettes,
des perruques. Très burlesque,
YouTube. C'est très très burlesque dans les codes, mais c'est, je pense que l'origine de tout ça, c'est vraiment l'économie de moyens qu'il y avait. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Si vous allez voir le dernier court-métrage de Norman, qui a été notamment financé grâce à Fanta, mais ça, on pourra en reparler.
Une marque de boissons gazeuses sucrées.
Voilà.
On préfère que les enfants boivent relativement peu.
Voilà, exactement. Mais dedans, il y a des dizaines d'acteurs, de figurants. Il y a une trentaine de personnes qui ont été impliquées dans le tournage et ils ont tourné en décor réel. Et donc là, on est à milieu de ce que lui proposait à ses tout débuts, quoi. Donc il y a une vraie évolution, en tout cas pour les plus gros qui ont des vraies équipes de production. Mais c'est vrai que à la base, les codes, la naissance même de ces codes, c'était vraiment par économie de moyens.
Y compris pour le montage, y compris pour le fait que les coupes se voient toujours. Mmh. Elles sont même mises en scène, c'est-à-dire que le son est toujours coupé trop tôt sur YouTube. On mange ces mots, pas comme moi quand je le fais pas exprès, mais vraiment les sons se percutent. Et puis des images parfois complètement étrangères au sujet arrivent inopinément. Par exemple, Kevin Tran introduit des images d'hommes politiques qui veulent un peu rien dire, qui sont là, je sais pas, pour relancer notre attention. Ça reste tout de même dans les codes, surtout chez les humoristes. Vincent Manilève.
Oui, c'est ce qu'on disait aussi juste avant, c'est qu'il faut garder un certain rythme, une certaine vitesse. Et ce qui c'est comme si nous, là, dans cette émission, on n'était pas en direct, mais qu'on décidait de, au montage, de couper tous les tous les petits silences.
Mais ça, on le fait quand on n'est pas en direct.
Quand on n'est pas en direct. Mais là, on est en direct. Et effectivement, ce que eux font dans les vidéos, c'est aussi pour donner du rythme, parce qu'ils sont seuls à face à une caméra. Des fois, ils enregistrent tout d'un coup, ils appuient sur le lancement de l'enregistrement, puis ils font tout d'un coup, ils n'arrêtent pas. Mais en fait, et donc au montage, ils ont besoin non seulement de donner du rythme, et en plus de varier les plans, alors qu'ils n'ont qu'une caméra et qu'une seule valeur de plante. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de cuts et de zoom. Et d'ailleurs, là, on arrive un petit peu à une overdose, j'ai l'impression, de tout ça, parce qu'il y a deux gros youtubeurs français qui s'appellent Joyka et Amixem. Ils ont lancé une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Des cuts et des zooms, et où il y a littéralement que ça pendant 10 minutes de vidéo à chaque fois.
Mais c'est une parodie ou c'est...
Je sais pas. J'ai l'impression que c'est très sérieux. Mais eux, ils arrivent en plus, comme ils ont un peu une équipe de production, à mettre des effets spéciaux, à rajouter des éléments, etc. Mais je veux dire, on arrive quand même, j'ai l'impression, il y a une époque un petit peu de saturation vis-à-vis de tout ça. Ça fait un peu mal aux yeux au bout d'un moment.
Mais est-ce que ça, c'est pas aussi une question de génération? C'est la création d'un langage visuel qui exclurait par son rythme peut-être très rapide, mais aussi une certaine manière de traiter l'image, manière peut-être un peu brutale, en tout cas pour moi, à l'âge que j'ai, qui exclurait donc le public le plus âgé, Michael Świerczynski.
Alors, il y a un rythme pour s'adresser aux plus jeunes, comme on le retrouve sur d'autres plateformes. Oui, il y a de l'humour, mais pas toujours, puisque je parlais de la vulgarisation scientifique, histoire, science, où on peut faire quelques plaisanteries pour apprendre un concept, etc. Mais en fait, l'humour, ce serait en fait se focaliser juste sur ceux qui sont les plus connus, hein, comme à l'époque, je dis, enfin toujours aujourd'hui, Norman, Cyprien et Squeezie, mais pas uniquement.
Non, mais je parlais du fait qu'on utilise un langage visuel comme on utiliserait un argot dans le but de rester finalement entre soi.
En fait, je ne sais pas si on reste entre soi. En tout cas, on capte l'attention des plus jeunes. Et après, il y a encore une catégorie de plus jeunes. Ça veut dire que quand on a, je ne sais pas, entre 5 et 8 ans, on ne regarde pas la même chose. On ne va pas regarder aujourd'hui ceux dont on parle. Quand on a 15 ans, quand on a un adolescent, on va être aussi très fluctuant. Ça veut dire qu'on va évoluer. Donc, il y a une grammaire qui s'adresse aux plus jeunes. Quelque chose qui m'a marqué, où je fais un tout petit pas de côté, ma fille qui à l'époque, avait 6 ans, il y a quelques années de plus maintenant, elle regardait absolument pas les youtubeurs fiction, vulgarisation scientifique ou les émissions. Elle regardait, en fait, pendant des heures, malheureusement, Swan et Néo, qui était une chaîne de gens qui ouvraient des cadeaux, ou alors des choses, Madame Récré, je crois, de mémoire, qui jouait avec de la pâte à modeler. Et ça faisait des millions de vues aussi. Donc c'était encore un autre langage et une autre grammaire pour les 6-9 ans. Là, je parlerais plus d'une grammaire adolescente pour moi. Des 15-18, si on peut aller plus loin.
15-18 est souvent regardé par...
Peut-être des 12.
des pré-adolescents, voire des enfants, tout de même. Vincent Manilet.
Oui, non, je voulais juste ajouter que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette première génération de youtubeurs, qui a plus de 30 ans aujourd'hui, continue des fois à avoir des codes, entre guillemets, d'adolescents dans le langage aussi, et se retrouve un peu coincé là-dedans. J'ai l'impression que quelqu'un comme Norman, aujourd'hui, c'est une période très importante pour lui. Il vient de devenir papa, donc ça a une influence sur son contenu vidéo, et il va faire faire un spectacle, son deuxième spectacle de One Man Show, où ça s'appelle le spectacle de la maturité. Donc on va voir si il va vraiment faire évoluer son discours, sa façon de parler sur scène, ou si, un peu comme dans son premier spectacle, il y avait toujours un petit peu des blagues un peu encore adolescentes, des références à l'école, aux profs, etc. Donc il y a aussi ce côté-là de se retrouver peut-être potentiellement coincé en grandissant dans toute cette grammaire-là.
C'est l'éternel problème des jeunes stars, des enfants. Mais puisque vous parliez des petits, Michael Zwierzynski, je vous propose d'écouter un extrait d'un envoyé spécial, d'un reportage diffusé dans Envoyé spécial. C'était sur France 2 en mai 2018.
L'univers merveilleux de l'enfance a parfois ses secrets que les adultes ont du mal à comprendre. Un monde à part, où ces deux petits garçons ont une place très particulière. Néo, 13 ans, Swan, 6 ans, sont des stars pour les enfants français. Depuis que leur maman, Sophie, filme des moments de leur vie.
Allez. Hop. Ça tourne. Coucou les garçons.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va aujourd'hui?
Très bien. Très bien. Et vous les copains et les copines?
On espère que vous allez bien aussi.
Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui?
On est à Nigeland.
J'ai l'impression...
Chaque jour, depuis 2 ans, Sophie met en ligne une vidéo de Néo et Swan sur la plateforme YouTube.
C'est parti. Oui, oui. On est parti.
Des visites de parcs d'attractions, comme aujourd'hui, mais aussi des ouvertures de cadeaux, souvent offerts par les marques.
Bon, j'en prends un petit peu pour au début. Hein, pour...
Des dégustations de bonbons. De fast-food.
C'est parti pour la dégustation.
Un reportage qu'on peut d'ailleurs voir sur YouTube, mais qui était au départ diffusé donc sur France 2. YouTube s'apparenterait à une série de soap-opéra individuelle réalisée pour le coup par des particuliers, mais qui viserait à promouvoir tout un tas de marques, de produits, ce qui n'est pas toujours dit. Ça, c'est aussi le gros problème de YouTube, encore plus quand il s'adresse au jeune public. Vincent Manilev.
Oui, c'est vrai que pendant de longues années, parce qu'il y avait un peu aussi, c'est en tout cas c'est comme ça qu'ils s'en défendent maintenant, mais il y avait une espèce de flou un peu sur la visibilité des partenariats avec des marques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la monétisation des vidéos, le placement de pubs avant les vidéos, ça ne marchait plus. Donc les marques se sont directement invitées dans les vidéos, soit via des placements de produits comme on peut le voir dans un James Bond, soit en faisant un partenariat complet, c'est-à-dire que la vidéo était créée à la rencontre entre l'univers du youtubeur et de la marque. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure Fanta a financé un court-métrage de Norman récemment. Et effectivement, ça pose tout un tas de questions sur la visibilité de ces partenariats. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Il y a des options qui ont été mises en place du côté de YouTube. Il y a des efforts qui ont été faits de la part des youtubeurs, des boîtes de prod qui les encadrent. Aussi parce que le public est devenu un peu plus conscient de ça aussi, en se disant, là, on voit le placement de produit, il faut que tu l'assumes. Mais aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les youtubeurs deviennent de plus en plus transparents, voire assument complètement ces partenariats-là. Donc il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce qu'il faut assumer ça? Est-ce qu'il faut assumer complètement de se laisser un peu déborder par la droite, par les placements de produits? Et ça amène des vidéos, et notamment récemment, McFly et Carlito, qui sont l'une des plus grosses chaînes françaises. Ils ont plus de 5 millions d'abonnés.
Et qui s'adressent beaucoup au jeune public.
Ils ont fait un concours, ils ont fait une vidéo, un concours, la bataille des OP, c'est-à-dire la bataille des opérations commerciales, des partenariats, avec deux autres youtubeurs, où le but c'était en une journée que chacun dans leur groupe décroche le plus de partenariats possible pour faire gagner des objets à leurs abonnés. Et ça a été extrêmement bien accueilli par le public, là où je pense il y a 10 ans ce genre de contenu aurait été beaucoup plus critiqué. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur la façon dont la publicité infuse ce milieu-là. Et c'est vrai que moi, des fois, je suis encore assez étonné de voir tant de tolérance vis-à-vis de messages qui peuvent être un petit peu border dans les contenus vidéo.
Il faut savoir que, du coup, les enfants d'aujourd'hui savent très jeunes ce que c'est que le placement de produits, parce que les youtubeurs en parlent aussi et leur apprennent cela. YouTube s'intéresse beaucoup à ce qui est produit sur YouTube. Il y a des chaînes, et ça ne se fait pas du tout ailleurs, parce que les médias traditionnels ne s'intéressent pas beaucoup à YouTube. Il y a des chaînes qui expliquent le fonctionnement de YouTube, ses ficelles. Et puis, il y a aussi des chaînes qui s'intéressent au cinéma. Il y en a plusieurs. Elles s'intéressent aussi aux images, comme Faux Raccord. Alors, je vous propose un extrait donc de cette chaîne qui s'intéresse au faux raccord, donc en l'occurrence à ceux d'un film d'animation Zootopie.
Regardez Michel, le panneau est transparent. Qui a-t-il décrit ?
Académie de police de Zootopie.
Bravo Michel, vous savez lire. Bon, maintenant, je laisse un peu défiler.
Zootopie possède 12 écosystèmes uniques sur l'ensemble de son territoire.
Tac, regardez là.
Ah, bah oui, si le panneau est transparent, les lettres devraient être à l'envers, non ?
Exactement. Bon, passons à cette scène. Ouvrez bien vos yeux et surtout vos oreilles.
Eh oui, 200$ par jour multiplié par 365 jours par an depuis que vous avez 12 ans, disons 2 décennies, 2 fois 20, ce qui nous fait 1 460 000 $, je crois.
Pause. Vous êtes d'accord avec elle, Michel ?
Bah attendez, faut que je calcule quand même. 200 fois 365 jours fois 20 ans, hein, 1 460 000, ouais, c'est bien ça, ouais.
Voilà, et tout comme elle, vous avez fait la même erreur de ne pas prendre en compte les années bissextiles. Il a donc gagné un peu plus.
Ah oui, merde, vous avez raison.
Évidemment que j'ai raison.
Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord.
Et j'aurai du lourd, du très très lourd.
On entend le langage propre à YouTube, mais vous êtes bien sur France Culture, dans Être et Savoir. On s'intéresse à cette culture qui est celle aujourd'hui du jeune public, en tout cas quand il est devant des écrans, avec des chaînes qui s'intéressent aussi au cinéma. Alors, il y a beaucoup de critiques de cinéma sur YouTube et puis d'analyse des images. Donc ça doit vous inspirer un commentaire. Vous qui travaillez au Forum des images, Michael Swiartynski.
Bien sûr, là ce qu'on a entendu, c'est Faux Raccord qui à l'origine, si je me trompe pas, était sur Allociné et est venu sur YouTube plus tard. Donc on était déjà sur un site de cinéma qui s'est ensuite glissé sur la plateforme principale YouTube. Mais on avait eu la chance de lancer des masterclass bien avant le festival Stream Day dont on a parlé rapidement. En 2015, on a reçu le fossoyeur de films. Qui avait une des plus grandes chaînes de cinéma française en tout cas, et en fait il était en train d'analyser les images, mais pour finir il avait un rythme et un ton comme on le dit assez plus rapide, mais c'était une analyse parlée avec des extraits de films ou des arrêts sur images qui était assez classique, même si le discours et le ton étaient beaucoup plus rythmés par rapport à nos cours de cinéma qu'on peut faire. Mais nos cours de cinéma sont faits par des profs de cinéma de différentes universités qui viennent avoir une analyse critique de films. Là, on est plutôt sur des gens qui analysent les images pour leur public de façon directe, pas dans un but universitaire, on va dire, ou de décryptage.
Mais ça rend l'analyse d'image extrêmement accessible.
Alors je dirais que ça rend le film extrêmement accessible. Sur l'analyse d'image, effectivement, on est parfois sur des timings très courts. Donc en fait, on va donner un avis sur un film, une opinion. Donc ce sera pas une analyse critique de film, ce sera plutôt ma critique de film, la façon dont j'ai ressenti le film. Et indirectement, voilà, je vous conseille de le voir ou de pas le voir. Après, on a beaucoup de chaînes bien plus larges qu'on pourrait appeler issues de la pop culture, hein, un mot à la mode, mais qui coiffent largement à la fois le jeu vidéo, le cinéma, du rétro gaming ou de la BD. Et en fait, on voit beaucoup de chaînes qui mélangent en fait ces analyses d'images et qui vont faire une sorte d'arrêt sur image, de critique, mais de tout ce qui est lié à l'univers, on va dire, entertainment, divertissement. Je pensais à Link the Sun, par exemple, une autre chaîne que je regarde pas directement, mais que regarde mon fils, et où il y a une analyse pop culture et jeux vidéo, et comme je vous l'ai dit, au Fossoyeur du Web, par exemple.
Et vous nous donnerez ces références, parce qu'on les mettra sur la page d'Être et Savoir sur le site de France Culture. Moi, j'ai cette référence. Pourquoi on parle de chaîne, Vincent Manilève, de chaîne YouTube ?
Bah, un petit peu... En fait, c'est tout simplement, je pense que parce qu'on c'est une page qui regroupe différentes émissions, différents contenus, et en gros, quand on arrive sur YouTube, c'est comme quand on arrive sur le panneau de sa télévision, on a plusieurs chaînes à disposition, sauf que à la télévision, c'est en direct, on peut regarder en replay ou quoi, et sur YouTube, faut juste choisir son programme. Je pense que c'est aussi parce que c'est un mot qui parlait globalement plus facilement à un plus large public, c'était un moyen de le rendre ça plus accessible et plus intéressant pour quelqu'un qui vient de la télévision.
J'ai Je te demande pas d'être honnête. Je préfère passer pour une cruche. Pour oser dire que je suis belle, il te faudrait un cœur robuste. Tu pourras me lire du Baudelaire. Tu sais que la poésie, j'aime ça. Et tu liras bien en cachette du Musso, du Anna Gavalda. Ça y est, je ne vois bien écrire des chapitres en un. Y'a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte. C'est bon, ça y est, je ne vois bien écrire des chapitres en un. Y'a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte. Je te dirai jamais d'être fidèle, je le vois bien, même en offset. Y'a juste à regarder ma tête, mes traits ne ressortent pas bien. J'ai peur de ne pas être une fierté, peur que tu n'oses pas me montrer. J'ai pas envie d'être un trophée, poussiéreux qu'on m'a vite oublié. C'est bon, ça y est, je le vois bien écrire des chapitres en un. Y'a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte. C'est bon, ça y est, je le vois bien écrire des chapitres en un. Y'a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte.
C'est Lola Dubini qui est elle-même youtubeuse, chanteuse donc, et qui sort un album juste ces jours-ci. Jamais de princesse dans les contes, c'est le titre de cette chanson. Beaucoup moins de filles que de garçons sur YouTube. En tout cas, les rôles sont extrêmement stéréotypés, à tel point qu'il y a des parodies de youtubeuses par des youtubeurs, youtubeuses qui seraient censées s'intéresser au maquillage et à la mode principalement. Comment a-t-on pu se retrouver au début du 21e siècle dans un univers comme ça, aussi codifié du point de vue des rôles sexués, Vincent Manilève?
Bah, je pense tout simplement parce que YouTube, c'est un reflet de la société et du fonctionnement de la société actuelle. On a beau être au 21e siècle, il y a toujours des inégalités salariales, il y a toujours des hommes qui ont plus de facilité à accéder à certains postes, à certaines opportunités. On a tendance à tort à croire plus facilement la parole d'un homme sur des sujets sérieux, scientifiques. Et tout ça, on le retrouve aussi sur YouTube, c'est-à-dire qu'à la fois, on va faire plus confiance à un vulgarisateur qu'à une vulgarisatrice. On va moins oser lancer sa chaîne quand on est une femme qu'un homme. Et si on ose lancer, si on a envie de lancer une chaîne, on va des fois se bloquer et essayer de faire des sujets qui sont très genrés, c'est-à-dire qu'une femme va se dire « Ah, il faut que je fasse du maquillage, peut-être un peu d'humour, mais ce genre de choses. » Et donc, effectivement, on s'est retrouvé avec, surtout il y a 10 ans, des chaînes assez... c'était assez réparti. Le gaming, c'était que des garçons. L'humour, c'était surtout des garçons et quelques filles, notamment Natou et Andy Raconte. Mais voilà, c'était globalement dominé par les hommes. Et aujourd'hui, on voit encore dans les vidéos humour, c'est toujours les mêmes femmes que l'on voit, les mêmes comédiennes que l'on voit dans leurs vidéos et qui ont des rôles des fois assez stéréotypés. Après, aujourd'hui, il faut savoir, c'est vrai que ça évolue quand même. La question qui se pose encore, c'est la question de la visibilité, parce qu'en fait, les femmes ont des chaînes, c'est simplement qu'elles ont moins d'abonnés, parce qu'elles sont moins visibles, parce qu'elles sont moins partagées, globalement.
Et l'algorithme faisant le reste du travail, un algorithme qui ne se demande pas s'il doit être égalitaire, sexiste, un algorithme qui ne se demande pas d'ailleurs s'il s'adresse à un jeune public ou à un public adulte.
Alors oui, l'algorithme, c'est un peu le grand mystère YouTube, c'est-à-dire que personne n'est censé connaître son fonctionnement. C'est ce qui va en gros déterminer les recommandations de vidéos que vous avez sur YouTube. Et c'est vrai que il a été montré que globalement, si vous regardez des vidéos d'hommes, on va vous suggérer plus facilement d'autres vidéos d'hommes, et encore plus comme les hommes sont plus suivis que les femmes sur YouTube, on va tendance à vouloir vous mettre en avant des gens plus populaires. Après, ce qu'il faut savoir. Après, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a des discussions qui sont menées par YouTube, qui a lancé un programme qui s'appelle Elles font YouTube. Après, globalement, il y a des choses qui sont encore assez flagrantes. Quand une femme parle de sexualité, quand elle parle de règles sur YouTube, sa vidéo va être plus facilement démonétisée, c'est-à-dire qu'elle va perdre sa capacité à avoir des publicités et faire de l'argent, parce que ça plaît moins aux annonceurs. Et ça, YouTube, je pense qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire là-dessus avec les youtubeurs et avec les marques.
Et justement, pour un média qui intéresse le jeune public, on peut se poser la question des valeurs qui circulent. Alors évidemment, il y a des contenus violents qui peuvent être censurés, mais ça va bien au-delà. C'est le vidéaste Nota Bene, Benjamin Briot, on en a déjà parlé, qui participait à une table ronde au Forum des Images, donc lors des Stream Days, puisqu'on est obligé d'avoir des noms anglais quand on parle de ces vidéos sur Internet. Qui en parlait, puis je vous propose au début d'écouter un petit extrait de sa chaîne. Il parle d'Harry Potter et aussi des valeurs d'Harry Potter.
Dans Harry Potter, les sorciers sont complètement déconnectés de la société moldue. Ils ont fait le choix de l'ombre, se protégeant de l'hostilité que les hommes ont manifestée à leur égard il y a des centaines d'années de cela. Ils vivent dans un monde où une magie puissante et ancestrale leur permet de vivre sans la technologie nécessaire aux moldus. Transport, cuisine, ménage, guerre, rien n'échappe à la magie, et même à une époque difficilement imaginable sans internet, les sorciers s'en tirent très bien avec leur système de courrier mi-magique, mi-primitif.
En soi, les sorciers refusent de basculer dans ce monde moderne et technologique qui est le nôtre. Ils se réfugient dans le leur, avec leurs traditions, leurs codes, leurs valeurs, résistant jour après jour et craignant d'être démasqués, combattus, puis assimilés.
Harry lui-même est tiraillé entre ces deux mondes, celui des moldus, qu'il a toujours connu, et celui des sorciers, qu'il découvre et qu'il apprécie. Si cette analyse fait plutôt écho à des interprétations modernes des mythes arthuriens, c'est évidemment pour faire ressurgir ses peurs à nous, celles des dérives de la technologie et de la modernisation.
Souvent, on peut se faire démonétiser sans savoir pourquoi. Il y a des critères qui sont extrêmement flous. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup d'images d'archives. À un moment donné, je m'étais fait démonétiser une vidéo et on m'avait dit « Oui, mais c'est une photo de la Seconde Guerre mondiale et au fond, à droite, à 300 mètres dans la photo, quelque part, il y a un corps de quelqu'un. Voilà. » Et bon, c'était vraiment pas gore du tout. Hein, c'était vraiment en fond de cadre. Et on m'avait dit « Mais ça ne passe pas. » Et puis pareil, YouTube, on a un espace YouTube où on peut uploader nos vidéos, et dessus il y a marqué « Oui, allez-y, créez, ayez des discours motivants, inspirants, parlez d'LGBT, parlez de tout ça, parlez du féminisme, allez-y ». Et quand on en parle, on se fait démonétiser. Donc c'est un peu chiant. Typiquement, moi, je sais que j'ai une vidéo sur l'accouchement. Dans l'histoire qui a été démonétisée, j'ai jamais trop su pourquoi. Ma femme a fait, qui est vidéaste aussi, a fait des vidéos sur l'avortement dans le monde, par exemple. Dès qu'on parle d'avortement, c'est fini, on est démonétisé, quoi.
Des valeurs et un double discours aussi pour la plateforme. Vous l'avez dit également, Vincent Manilev, YouTube pense promouvoir les femmes, mais finalement ne les met pas en avant. Pense promouvoir, pour Benjamin Briot, un système de tolérance, mais a vite fait de démonétiser. Donc ça, c'est la punition ultime, on le comprend. Des vidéos, finalement, c'est une forme de censure, Michael Zwiercinski, qui passe par la publicité.
Exactement. Autant à la télé, en tout cas en France, on a le CSA et puis en fait des organes institutionnels qui donnent un âge ou qui font, pas une censure bien sûr, mais qui font des recommandations, autant de façon, on va dire, ouverte, comme le disait Nota Bene, YouTube encourage à la création et toute forme de création. Après, on a énormément de dérives aussi. Simplement, il y a deux formes de censure. En fait, il va avoir la censure par défaut, peut-être sur certaines scènes violentes, quoique. Sur la sexualité, on reconnaît toujours une sorte de puritanisme des plateformes, on va dire, je dirais, anglo-saxonnes, Facebook y compris, par rapport à la violence. Mais on va avoir une sorte de censure qui est liée à un modèle économique. Ça veut dire que parfois vous pouvez parler de ce sujet, mais il n'y aura pas de publicité ou il n'y aura pas d'annonceur. Donc quelque part, c'est presque une censure par l'argent ou par le fait, pour ceux qui en vivent, que je ne pourrais pas parler de tous ces sujets. Et puis après, il y a des débats qui méritent d'être lancés et qui sont au cœur des contenus. Donc là, on parle plus de format et de contenu, mais je reviens surtout à la vulgarisation scientifique et web-série. C'est effectivement, dans toute la partie histoire, il y a des sujets chauds et brûlants, même si c'est pas des historiens, et qui sont des mots-clés qui sont censurés. Donc dès qu'on va parler de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on peut avoir effectivement une dérive sur l'analyse du national-socialisme, des choses liées à la Shoah, etc., on va avoir effectivement une censure. Mais une censure même sur le mot-clé, pas sur l'intérêt du contenu.
Oui, comme les photos de nus. Comme
des photos de nus.
Gustave Courbet, voilà. L'origine du monde, sur Facebook, on connaît ces histoires.
Donc effectivement, comme dans l'art. comme dans l'art, on mettrait l'ensemble des nus de grands artistes, ils seraient censurés, contrairement à un nu abusif ou à une scène érotique qui serait déplacée. C'est totalement différent. Donc, il n'y a pas cette intelligence de l'analyse, il y a cette intelligence, je ne sais pas, entre guillemets, de l'algorithme, mais qui, au fond, crée une censure par rapport à des mots-clés, parce que derrière, même s'il y a quelques hommes, on le voit, il y a surtout un moteur, et il n'y a pas encore cette intelligence de la compréhension de l'intérêt du contenu. C'est les mots-clés qui ressortent, qui sont, eux, censurés.
Mais il n'y a aucun intérêt, si c'est une plateforme commerciale, à s'intéresser à ça, puisque ça ne générerait pas de revenus. Je crois que c'est la logique de YouTube. Mais pour terminer, Vincent Manila, je voulais vous poser une question, parce que il y a énormément de chaînes. Alors, je vous fais grâce, on n'a pas le temps de passer un enregistrement de Michou. C'est une chaîne de gaming, donc c'est des gens qui se filment dans un coin d'écran en train de jouer aux jeux vidéo. C'est extrêmement dominant. C'est le premier youtubeur français, Squeezie, qui fait ça. Alors maintenant, il fait de la poterie et puis il fait du dessin et il est regardé par des millions de personnes. Ça crée du commun ou ça crée un morcellement du public, y compris du jeune public? Parce que finalement, les générations précédentes regardaient un peu toutes les mêmes contenus. Est-ce que là, ça va créer beaucoup plus de petits groupes, un morcellement donc du public?
Moi, je pense que c'est intéressant de noter aussi que beaucoup de ces gros youtubeurs sont en contrat avec la même entreprise qui s'appelle Mixicom, qui appartient elle-même à Webedia. Squeezie, son bureau, son l'endroit où il tourne, est juste à côté de la salle de tournage de McFly et Carlito, qui eux-mêmes sont dans le même dans la même boîte de production de Norman, de Cyprien, de Natou, etc. Et en fait, à l'inverse du morcellement, eux, comme ils sont tous ensemble, ils travaillent tous ensemble, ils sont amis, ils sont dans les vidéos l'un de l'autre, etc., ils s'alimentent mutuellement, et globalement, quand il y a un petit nouveau qui arrive, il va faire des vidéos sur leur chaîne à eux, il va lui-même grimper, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt quand même une uniformisation des contenus et de l'accès au contenu, parce que les plus puissants restent puissants et font eux-mêmes créer les nouveaux rois de YouTube, en fait. Donc ça, c'est ça, je pense que c'est assez intéressant à noter. Après, en soi, effectivement, en fonction de ses origines sociales, de ses goûts personnels, on va aller regarder des vidéos très différentes. Et des fois, c'est pour ça qu'on voit en page tendance la page qui recense a priori les vidéos qui marchent le plus à un moment, à un instant T. On va avoir des contenus très très différents qu'on ne soupçonne pas et que nous-mêmes, dans notre bulle un petit peu de recommandations, on n'avait jamais vu venir. Donc c'est assez paradoxal, en fait. Et là encore, c'est une question un petit peu d'algorithme. Voilà.
Avec cette question, les enfants grandissent-ils dans des bulles? Pour en sortir, on peut s'intéresser aux Stream Days, puisque beaucoup de youtubeurs scientifiques et historiens, youtubeurs non pas des historiens, mais qui s'intéressent à l'histoire, y étaient réunis. On peut voir des conférences. Nous mettrons aussi en lien des chaînes YouTube qu'on aime bien, et pas seulement celle du Rire Jaune, qu'on remercie. Merci à mes invités également d'aujourd'hui. J'indique, Michael Swierczynski, que le Forum des Images organise à partir du 15 novembre un festival. C'est la 11e édition d'un état du monde. Les cinéastes français et internationaux, philosophes et sociologues décryptent notre époque à travers des projections et des rencontres. Et j'indique que dans notre prochaine émission, la semaine prochaine, nous parlerons des enfants migrants, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup les artistes et les écrivains d'aujourd'hui qui s'emparent du sujet, y compris dans l'édition jeunesse. Et tout de suite, on laisse place à la dernière rubrique de l'émission. Et c'est avec un des rappeurs les plus populaires auprès du jeune public que Sophie Bobert s'est entretenue. C'est la leçon de choses, et c'est avec Niska.
Les paysages qui ont mon enfance, c'est les murs d'Evry, c'est les murs de tous les quartiers d'Evry, quoi. J'ai passé mon enfance là, et entre le peu de fois où j'ai pu voyager à l'époque, c'est avec l'école qu'on allait en sortie, ou les maisons de quartier et tout ça, mais sinon, la majorité du temps, je l'ai passé entre les différents quartiers d'Evry.
Vous avez déclaré dans Libération récemment, je vous cite, « Gamin, je prenais le bus, hein, et là je sentais une adrénaline. » C'est-à-dire que très vite, l'embrouille pouvait partir, hein, c'est-à-dire que il y avait une tension dans l'air.
Ouais, il y avait une tension dans ces endroits-là, parce qu'on a grandi dans cet environnement-là, Et que c'est comme ça, on a juste suivi l'exemple des plus grands qui étaient là avant et qui faisaient certaines choses. Et voilà, on s'est, à leur image, on a suivi, c'est un cycle.
Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui chez vous, dans votre travail, de cette adrénaline-là?
Cette adrénaline-là, ben aujourd'hui, elle en reste. Elle me permet d'écrire des histoires, de raconter plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie.
Votre père, je crois, Niska, travaillait dans un aéroport à Roissy Charles de Gaulle. Votre mère dans un établissement scolaire. Elle était conseillère d'orientation, je crois.
Ouais,
elle vous conseillait quoi, elle, hein, quand vous étiez enfant?
De pas lâcher l'école.
Ouais. Vous en pensiez quoi, vous, de cette idée de ne pas lâcher l'école? Ça vous pesait?
Comme tout adolescent, hein, quand on te demande de ne pas lâcher l'école, voilà, tu as toujours envie de lâcher. Parce que voilà, c'est toujours un peu contraignant et tout. Mais aujourd'hui, avec le recul, elle avait bien raison.
Mais vous n'avez pas lâché, vous étiez un bon élève, je crois.
Ouais, bah ouais, j'ai pas eu le choix. Sinon, c'était la boxe. Elle allait me boxer, sinon. Non, mais blague à part, moi, j'ai pas lâché, moi. J'ai écouté mes parents, tout simplement.
Vous étiez bon en quoi?
En maths, en histoire. Ouais. Bon, après, je kiffais pas spécialement, mais les parents m'ont dit que c'était là-bas que je devais donner la force, et je l'ai donné jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bac, tu vois. Donc, du coup, je suis comme ça, je suis quelqu'un, quand je me fous un objectif dans le crâne, faut que j'y arrive au bout.
Et là, votre mère, elle vous soutenait?
Elle m'a toujours soutenu, elle me soutient toujours.
C'est elle, Niska, qui vous a appris Lingala?
On m'a pas vraiment donné de cours, hein. Ça s'apprend pas comme ça, quoi, c'est pas scolaire. C'est à force d'entendre les gens parler, voilà quoi, la famille. Après, ça rentre. Hein.
Les empreintes de Brazzaville.
Ouais. Posé, je suis sous Jack en mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle Lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go. Qui connaît pas Charo? Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go. Qui connaît pas Charo? Petit peu j'ai connu la dèche. Chez nous le client est gueux. Si on te connaît pas, mais le tarot est rush. Ça galère, je monte dans mon bolide. Je balance du son à fond, je roule dans la ville entière. Les types allumés, les gravons, les anciens, la chaîne est alimentaire. Pas dans la tête, tu te retrouves à terre. Je ferme pas ma gueule, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai posé les bourreaux dans le refouge, je m'en bats les yokous. Je suis une boulangère. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, je me dis demain j'arrête. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer.
Et je crois savoir aussi, Niska, que votre père était musicien à ses heures perdues. Est-ce que c'est lui qui vous a mis sur la voie de la musique?
Non. Jamais. Non, il m'a pas mis sur la voie de la musique. Je suis allé tout seul. Moi, je suis pas musicien. Je suis un rappeur de base. J'écrivais des textes pour clasher, pour rigoler avec mes potes. Mon père, il savait pas que je chantais, moi. Ah non. Quand tu rappes, tu vas pas voir tes parents pour leur dire que je suis rappeur, hein. Surtout quand t'as des parents qui veulent que t'ailles à l'école longtemps.
Vous aviez peur qu'ils vous grondent ou qu'ils se fâchent parce que vous faisiez du rap?
Pas parce que je faisais du rap, mais parce que je faisais un autre truc qui me déconcentrait de l'école et qui avait peut-être pour lui à cette époque-là pas d'avenir et qui me faisait perdre du temps. Mais c'était pas le rap en lui-même qui le dérangeait. C'était le fait d'avoir la tête ailleurs, dans un truc qui peut-être allait mener à rien.
Ils disaient quoi de vous, les enseignants en général?
J'avais du talent, mais que je travaillais bien, mais j'étais trop dissipé.
C'est vrai.
Ouais. J'ai du mal à me concentrer trop longtemps, moi. Je suis comme ça, moi.
Qu'est-ce que vous avez appris, enfant ou adolescent, Niska, et qui vous sert encore aujourd'hui, qui vous irrigue encore aujourd'hui?
Le respect, les principes, valeurs. Mais c'est ces choses-là qui font que je suis encore là. Honnêteté, tu vois, ces trucs-là. Ces trucs que mes parents m'ont inculqué dans mon éducation. Qui font que, voilà, aujourd'hui, je suis encore là.
Et nous nous retrouvons à 17h dimanche prochain sur France Culture ou quand il vous plaira en podcast pour d'autres numéros d'Être et Savoir.